Alors bonjour, je m'appelle Chloé. Donc le voyage dont je souhaiterais vous parler, c'est un voyage que j'ai fait au printemps 2018. Donc je suis partie 3 semaines et demie au Japon, toute seule et en sac à dos. Et c'est un voyage qui m'a vraiment marquée, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci pour discuter avec vous.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Chloé nous raconte le Japon. Avec elle, on a parlé d'œufs, de calligraphie et de carnet de voyage.
J'ai bourlingué à travers le monde. J'ai fait ce voyage un peu sur un coup de tête. C'était une période de ma vie où j'étais un peu paumée, on va dire. Et je savais pas trop quoi faire. Je venais de finir mes études. J'avais juste une envie, c'était voyager et partir à l'aventure. Du coup, un peu sur un coup de tête, j'ai quitté mon job étudiant. Et un mois plus tard, je me suis retrouvée au Japon. Alors, pourquoi le Japon? Je sais pas trop, parce que j'ai jamais été vraiment fan de sushi ou même de manga. J'y connaissais pas grand-chose à cette culture. Mais je savais que ce pays, il avait quelque chose de particulier à mes yeux, parce que c'était l'un des seuls pays qui était vraiment à l'opposé du monde occidental que je connaissais. Et c'est pour ça que j'avais envie de le découvrir. Donc un mois après avoir posé ma démission, j'ai atterri à Tokyo. Et comme je disais, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Je connaissais pas du tout ce pays, ni sa culture. Il m'attirait, mais je savais pas trop pourquoi. Et j'ai rapidement compris que ce pays, il allait vraiment me dépayser, mais pas dans le sens que je pensais. Parce que quand je suis arrivée, les premières choses qui m'ont frappée, c'est le fait que toutes mes idées préconçues que j'avais sur ce pays, elles allaient être mises en question. Parce que dès que je suis arrivée, la première chose qui m'a marquée, par exemple, c'est le fait qu'il n'y avait pas de bruit. Enfin, c'était étonnant parce que j'arrivais à Tokyo, c'était une mégalopole vraiment tentaculaire et je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de bruit partout. Et au final, c'était relativement calme, même dans des très grandes avenues. Alors forcément, il y a des quartiers comme Akihabara ou le passage piéton de Shibuya, où il y a énormément, énormément de bruit. Mais dans certaines avenues, même des très grandes, avec des voitures et des gens, c'est très calme. Et ce qu'on m'a dit, c'était qu'il y avait déjà un revêtement particulier pour le sol. Alors ça, j'en sais rien, mais ça pourrait expliquer des choses. Et les gens, ils parlent pas forcément dans la rue. Du coup, c'est vrai que ça m'a étonnée, parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un capharnaüm auditif, vu le nombre de personnes à Tokyo. Et c'était pas le cas. Et l'une des autres choses qui m'a marquée quand je suis arrivée, c'était le climat. C'est-à-dire que bon, pour moi, le Japon, c'était un pays assez froid. Et quand je suis arrivée, c'était vraiment plutôt moite et humide. C'était une chaleur chaude. J'avais l'impression d'être dans un pays tropical, alors que j'étais au Japon et que je m'y attendais pas. Donc ça, c'est les premières impressions dès que je suis arrivée, qui m'ont dit que ce pays, il allait pas être ce que j'attendais de lui, en fait. Et ça s'est confirmé, par exemple, rien qu'à mon premier repas. Moi, je pensais que la nourriture japonaise était une nourriture très saine. Et surtout, moi, dans ma tête, il y avait les sushis. Et à part ça, j'y connaissais pas grand-chose. Et au final, il y a très peu de sushis. Et la nourriture, elle est pas si saine que ça. C'est-à-dire que les Japonais, ils adorent tout ce qui est frit, déjà. Ils adorent les tempura. Ils aiment aussi beaucoup tout ce qui est à base de viande assez grasse. Par exemple, ils aiment la viande de bœuf assez persillée, que nous, c'est pas forcément ce qu'on est habitué à manger. Mais oui, du coup, c'était une nourriture basée beaucoup sur tout ce qui était les féculents et la viande, alors que moi, je m'attendais à des légumes et du poisson cru, quoi. Mais c'était assez intéressant de voir ce décalage de la vision qu'on a entre ce pays et ce qu'il est vraiment. Donc ça, c'était pour la partie nourriture. Et après, il y a quelque chose qui m'a aussi étonnée dès que je suis arrivée, mais qui aurait été peut-être préférable que je sache avant d'arriver, c'est la langue. Donc bon, il parle japonais, ça, je le savais. Mais je pensais que vu que c'était une puissance internationale assez développée, qui parlerait très bien anglais. Et au final, c'était pas du tout le cas. C'était assez perturbant au début, parce que même dans les gares ou les restaurants, des lieux qui sont fréquentés par des touristes, les Japonais ne parlent pas vraiment anglais. Donc pour se faire comprendre, c'était assez compliqué, parce que le japonais, moi, je le parlais pas du tout, du coup. Et donc pour lire les cartes de restaurant ou pour essayer de demander son chemin, ça pouvait me nuire. Mais bon, au final, j'ai totalement réussi à me débrouiller, ça s'est bien passé, mais c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir avant de partir au Japon. Et donc c'est tous ces petits détails qui, au long de mon séjour, qui m'ont mené de Tokyo à Osaka, en passant par Nara, Kobe, Himeji, enfin tous ces lieux mythiques, qui m'ont montré que c'était un pays qui était déroutant et qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Mais au-delà de toutes ces petites anecdotes
Ce qui m'a vraiment marquée dans ce séjour, c'est les rencontres que j'y ai faites, avec le peuple japonais notamment, parce que c'est un peuple que je m'imaginais assez froid, enfin assez distant, parce qu'ils sont très dans la, ils sont énormément dans la retenue, ils parlent pas de leurs sentiments, pour les accoster c'est assez compliqué aussi, et puis bah, vu qu'ils parlent pas anglais aussi pour échanger. Et au final j'ai rencontré un peuple qui était extrêmement bienveillant et qui voulait vraiment partager sa culture, que ce soit avec moi ou les autres touristes. Et j'ai fait plusieurs rencontres qui m'ont marquée tout au long de ce voyage, et j'en ai sélectionné quelques-unes dont j'aimerais parler. Alors, la première, c'est celle que j'ai faite à Kyoto. Donc, c'est avec un moine bouddhiste. J'étais allée là-bas pour assister à un atelier de calligraphie japonaise, parce que j'ai toujours aimé l'art et la calligraphie. Du coup, ça m'intéressait de pratiquer ça là-bas, au Japon, où c'était né. Et donc, j'ai eu une surprise quand je suis arrivée, parce que ça se passait dans un temple. Et la surprise que j'ai eue quand je suis arrivée, c'était que j'étais toute seule à l'atelier. Donc, j'avais le moine pour moi toute seule, c'était génial. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, comment ça allait se passer. Et dès le début, j'ai été assez surprise parce qu'il m'a accueillie. Mais il parlait pas anglais, il parlait japonais. Donc c'était sûr que ça allait être un peu compliqué au niveau des échanges. Mais au final, il avait prévu un PowerPoint traduit en anglais et en français. Bon, approximatif le français, mais il m'avait prévu un PowerPoint. Il avait téléchargé une application de traduction. Donc bon, au début... ça m'a un peu déroutée parce que je me suis dit, bon, c'est pas... ça enlève un peu de la spiritualité du lieu et tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que c'était un super moyen pour lui de partager, en fait. Parce que s'il n'avait pas eu ça, bah, moi, j'aurais rien compris à ce qu'il voulait me dire. Et du coup, j'aurais pas pu apprendre tout ce qui était lié à la calligraphie, à l'histoire du pays et tout ça. Et du coup, c'est assez paradoxal parce que ça me gênait un peu toute cette technologie autour de cette religion, de ce moine et de cet art. Mais au final, c'était le meilleur moyen pour que j'en apprenne à ce sujet. Du coup, bah, c'était génial. Donc ça, c'est une des premières expériences qui m'a marquée. Et ce moine, il était adorable. Il a même fait venir une femme pour me préparer du thé matcha selon la cérémonie. Donc c'était vraiment un joli moment. Une des autres rencontres dont je voudrais parler, c'est une rencontre que j'ai faite à Hakone. C'est un lieu qui permet de voir le mont Fuji, donc l'emblématique volcan. Et là-bas, en fait... il y a une légende qui dit que si on mange un des œufs qui sont cuits là-bas, c'est-à-dire que c'est des œufs qui sont cuits dans les carrières de soufre juste à côté, eh ben on rallonge sa vie de 7 ans. Donc je sais pas si c'est vrai, mais la légende m'interpellait un peu et je voulais aller voir comment c'était. Donc en plus il y avait la vue sur le mont Fuji là-bas, donc c'était incontournable. Donc je suis montée, donc c'est un ropeway où on monte et on atterrit sur une esplanade avec une vue plongeante sur la vallée et sur le volcan. Et du coup, moi, mon but, c'était d'acheter un de ces œufs et de voir déjà s'il avait un goût particulier. Et le problème, c'est que quand je suis arrivée, c'était la fin de la journée et ils venaient d'être en rupture de stock. Du coup, j'étais déçue, je sais pas pourquoi, parce que c'était pas très très important, mais ça avait une symbolique toute particulière à mes yeux. Et j'ai vu un couple de touristes japonais qui venait d'acheter la dernière boîte de 6. Je me suis dit que ma timidité, elle devait pas m'empêcher d'accomplir ce pour quoi j'étais venue, même si c'était très futile. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai abordé ce couple de japonais pour leur demander s'ils voulaient bien me vendre un de leurs œufs. Et du coup, au début, ils comprenaient pas trop. Enfin, ils trouvaient ça un peu bizarre. Et au final, ils ont accepté très gentiment. Ils voulaient même le donner, mais bon, j'étais un peu gênée, donc je l'ai quand même acheté. Et donc, j'ai eu mon œuf. Et je suis partie et je l'ai mangé face au mont Fuji. Donc, c'était une expérience assez... remarquable, surtout que du coup je voyais le mont Fuji parce que des fois le panorama il est beau mais on le voit pas parce qu'il y a la brume ou il est pas visible, et là il était visible, donc tous les éléments ils étaient réunis pour que je le voie, et ça m'a vraiment marqué parce que du coup je me suis dit que j'avais pris mon courage à deux mains et que j'avais réussi à accomplir ça grâce à ce couple de japonais assez généreux. Et du coup j'ai mangé cet œuf, il avait pas de goût si particulier que ça, à part que sa coquille était noire du coup. Mais peut-être que j'ai gagné 7 ans de vie, mais en tout cas, j'ai gagné des beaux souvenirs. Et du coup, maintenant, pour finir, la dernière anecdote qui me vient en tête, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans les premiers jours, en fait, de mon séjour. Mais j'ai choisi d'en parler en dernier parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. J'étais en train de me balader dans un parc à Tokyo, et je prenais des photos et j'admirais le paysage. Et là, il y a un monsieur, un japonais, d'une cinquantaine d'années, qui m'a abordé et il m'a demandé si je voulais qu'il me prenne en photo avec mon appareil photo. Du coup, j'étais assez déroutée parce qu'on m'avait jamais demandé si je... Enfin, à la limite, on pouvait me demander si on voulait me prendre en photo, mais me prendre en photo avec mon appareil photo, je comprenais pas pourquoi il me proposait ça. Du coup, on a discuté, j'avais bien compris ce qu'il voulait, et du coup, il m'a prise en photo. Et en fait, j'ai trouvé ce geste d'une grande bonté au final, parce que son but, c'était juste de me donner un souvenir du Japon. Il attendait rien en retour, enfin, on a discuté quelques minutes, mais il m'a pris en photo dans ce lieu en plus qui, à mon sens, représente parfaitement le Japon, parce que j'étais dans un joli jardin japonais avec mille nuances de vert, des maisons de thé en arrière-plan, et tout au fond, on voyait la skyline des buildings en vert des quartiers d'affaires de Tokyo. Donc ce mélange entre modernité et tradition, qui est si emblématique de Tokyo et du Japon, se retrouvait sur cette photo. Et donc, à mon sens, cette image, elle incarne parfaitement mon voyage et elle revêt un cachet tout particulier au vu de l'histoire qui se cache derrière. Et du coup, ça m'a vraiment, vraiment marqué, cet événement. Toutes ces anecdotes, j'en ai vécu plein d'autres pendant mon voyage, ça ne manque pas. Mais j'ai décidé de parler de cela parce que je considère qu'ils se ressemblent dans le sens où ils montrent tous la bonté et la générosité du peuple japonais et surtout la fierté qui se dégage de leur rapport à leur pays. Parce qu'ils veulent vraiment transmettre leur culture et leur amour, que ce soit aux touristes ou aux gens qu'ils rencontrent. Et bon, peut-être que tous les Japonais ne sont pas comme ça, mais en tout cas, les rencontres que j'ai faites, c'est ce qui s'en dégage. Et oui, cette fierté de leur pays, ça m'a marquée. Bah, d'ailleurs, il y a une dernière anecdote qui me vient en tête. C'est quand j'étais dans une de mes dernières locations. J'étais dans une auberge de jeunesse à Kyoto et je discutais avec une jeune japonaise qui était là pour son travail de passage. Et on parlait de Kyoto, du Japon en général. Et je lui disais que je trouvais ce pays vraiment magnifique, notamment Kyoto, qui a été un de mes vrais coups de cœur. Et donc je disais que c'était très joli, très beau. Et après que j'ai dit ça, pendant 5 minutes, elle m'a remerciée. Mais alors je comprenais pas pourquoi, parce qu'elle était là, thank you. Enfin, je lui disais, j'ai dit un compliment sur son pays, mais je l'ai pas complimentée elle-même. Et pourtant, pendant 5 minutes, elle m'a remerciée comme si j'avais fait le plus beau compliment du monde. Et c'est vraiment, ça m'a marquée, parce que je m'y attendais pas. Personnellement, si on fait un compliment sur la France ou sur Paris, je suis contente, mais je vais pas forcément remercier la personne. Et elle, vraiment, ça l'avait touchée que je pense ça du Japon, en fait. Et ça m'a vraiment étonnée, ce rapport à leur pays qu'ils peuvent avoir là-bas. Et du coup, au final, ce séjour m'a énormément marquée, que ce soit parce que je me suis rendu compte que je connaissais pas le Japon. Enfin, je savais que je connaissais pas le Japon, mais les seules choses que je pensais connaître n'étaient pas vraies. Du coup, c'était assez déroutant, et je suis partie donc sans connaître ce pays, et j'en suis revenue amoureuse, que ce soit de la culture ou de son peuple, et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner maintenant. Au-delà de ça, ce séjour, il m'a marquée parce que c'était le premier que je faisais toute seule, à sac à dos, et il m'a prouvé que je pouvais rencontrer des gens, discuter. Je me suis pas sentie seule au final, via les rencontres que j'ai faites, que ce soit de Japonais ou même de voyageurs. Mais ça m'a permis de voir qu'on peut être jeune, on peut être une femme, et qu'on peut voyager comme ça, sans souci, et que ça apprend beaucoup sur soi, sur la culture et sur les autres pays. Et donc je suis très fière par rapport à ça en fait.
Merci beaucoup pour ton récit.
De...
Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier?
Parce que je pense que le Japon, c'est un pays qui attire beaucoup de monde, même si c'est assez compliqué d'y aller, du coup il y a peu de gens qui ont l'occasion. Mais c'est vraiment un pays magnifique et qui est méconnu. Et qui, au-delà de tout ce qu'on, de tous les clichés ou les images préconçues qu'on peut avoir, dégage autre chose. Et c'est ça que je voulais raconter, qu'on peut y aller pour les sushis ou pour les mangas ou pour les animés ou même pour tout ce qui est l'art des samouraïs et tout ça. Mais au-delà de ça, même des gens qui ne sont pas attirés par ça peuvent aller au Japon, être charmés par ce pays, que ce soit... Parce que là, j'ai beaucoup parlé des rencontres et de la ville, mais au-delà de ça, il y a des paysages qui sont juste incroyables et une diversité dont on n'a pas idée. Et du coup, en fait, ouais, c'est un pays qui est fascinant et qui, au-delà des images qu'on peut avoir, peut attirer tout le monde parce que tout le monde y trouvera vraiment, vraiment son compte et qu'il ne faut pas avoir peur de toute cette distance, parce que c'est vrai que le Japon, ça paraît vraiment comme le pays à l'opposé total de l'Occident. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de différences, mais au final, on s'y retrouve. Enfin, j'ai pas été perdue ou complètement sans savoir quoi faire, et je pense que c'est vraiment un voyage qui est accessible à tous. On va être dépaysé, c'est sûr, faut s'y attendre, mais on va pas se sentir mal, ou on va juste apprécier le lieu. Enfin, après, ça dépend forcément de tout le monde, mais c'est un pays qui a beaucoup à offrir, que ce soit en termes de rencontres, de paysages, mais aussi de culture. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment aller là-bas pour se rendre compte de ce que c'est.
Maintenant que tu es de retour au pays, est-ce que ça a changé un petit peu tes habitudes par rapport à ça? T'essaies de, je sais pas, consommer un peu plus de cuisine japonaise, tu t'intéresses au cinéma, à la musique, ou pas forcément?
Oui. Surtout qu'en plus, quand je suis revenue, c'était la fin de la période du japonisme. Il y avait eu beaucoup d'échanges entre la France et le Japon, du coup, il y avait énormément d'expositions et tout ça. Donc, moi, je suis plus sur la partie culturelle et culinaire. Du coup, oui, je fais beaucoup d'expositions où j'essaye de découvrir un peu plus cette culture, donc tout ce qui est les céramiques, les estampes japonaises et tout ça. Je suis toujours pas trop dans les mangas ou les animés, même si ça m'intéresse. Mais oui, donc plus dans la partie musée et aussi culinaire, parce que bah, du coup, là-bas, j'ai découvert des saveurs que je connaissais pas et qui me manquent. Du coup, je fréquente beaucoup la rue Sainte-Anne, les restaurants de ramen, les udon. Je suis toujours pas forcément fan de sushi. Mais c'est vrai que du coup, la culture et la cuisine m'intéressent beaucoup maintenant. Et oui, c'est ce que ça a changé dans mes habitudes au quotidien.
Si t'as une recommandation culinaire d'un plat japonais qu'il faut absolument goûter, ce serait lequel?
Les okonomiyaki. Ils appellent ça une sorte de pancake, omelette. C'est assez bizarre. Ils te le font cuire sur une sorte de plancha. Et en fait, c'est des œufs battus avec du chou. Et dedans, ils rajoutent des légumes. Et après, c'est soit végétarien, soit avec des crevettes, du poulet ou de la viande. Ou même du poulpe. Parce qu'ils adorent mettre du poulpe partout. Mais du coup, c'est une recette assez sympa. Dessus, ils mettent un peu de sauce. Et ça m'a... Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et au final, c'est très bon. Et du coup, vu qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, ça peut varier à chaque fois.
On va se parler maintenant de manière un petit peu plus générale de ta façon de voyager, de ta vision du voyage. Toi, avant de partir en voyage, est-ce que t'as un rituel?
Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, sur le Japon, j'en ai pas eu parce que c'était complètement improvisé. Donc j'en avais pas. Après, maintenant, j'essaye quand même de m'imprégner un minimum de la culture avant de partir. Donc... en lisant un peu soit des récits d'aventures qui se passent là-bas, mais surtout en essayant d'apprendre un peu plus sur l'histoire du pays. Pas forcément actuellement, mais plutôt ce qui a permis de mener à ce pays. Donc, pour avoir un background un peu culturel et mieux comprendre le pays quand j'y suis, en fait.
Est-ce que ça veut dire que dans ton sac, on trouvera des romans du pays que tu vas visiter ou à minima, je sais pas, des films, écouter la musique un petit peu?
Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors actuellement, il n'y en a pas dans mon sac, mais j'ai commandé un livre de récits sur ma prochaine destination. Et oui, du coup, je compte lire pas mal avant de partir.
De manière générale, comment tu documentes tes voyages? Est-ce que c'est via un carnet de bord, des photos, de la vidéo? Et est-ce que tu as un médium particulier préféré?
J'avoue que j'ai un peu tout ça. C'est-à-dire que j'adore me remémorer mes voyages en revenant. Du coup, sur place, je fais pas mal de photos et j'écris un carnet de bord un peu, mais vraiment, vraiment succinct quand je suis sur place. Mais d'ailleurs, c'est au Japon en fait, que j'ai commencé à faire ça. C'est-à-dire que là-bas, j'ai acheté un carnet de voyage. Donc pour eux, c'est les carnets où ils mettent... dès qu'ils visitent un temple, ils font des tampons et tout ça. Et du coup, j'ai acheté ce carnet qui a une forme très particulière. Et en rentrant, j'écris mon carnet de voyage dedans, en collant des photos, des tickets et en écrivant mon récit. Et depuis, je fais ça à chaque voyage en fait, c'est-à-dire que j'achète un carnet sur place qui représente à mes yeux le pays, et en rentrant, je colle tous mes souvenirs et j'écris mon récit dans ce carnet de voyage qui est très personnel au final. C'est au Japon qu'est né ce rituel. Ça m'a vraiment plu de le faire au Japon et du coup j'ai continué à le faire à chaque séjour après. Et sinon aussi, du coup je fais des photos que j'imprime et que j'affiche dans ma chambre. Et je les partage aussi sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Mais j'essaye de faire ça de manière un peu romancée. Plus de récits que de vrais conseils pratiques.
Ton blog, c'est un blog personnel ou c'est un blog orienté voyage?
C'est un blog orienté voyage. Mais orienté voyage, donc je raconte mes aventures. Mais aussi, je considère que le voyage, c'est pas forcément traverser une frontière. Et qu'on peut voyager de chez soi quand on ne voyage pas. Du coup, dedans, je mets aussi beaucoup de recommandations donc, littéraires ou de films, enfin même de restaurants. En fait, tout ce qui permet de voyager et de s'évader dans son quotidien et à l'étranger aussi.
Tu mentionnes dans ton récit des rencontres, hein, ne serait-ce qu'avec le moine ou la japonaise qui t'a remercié pendant de longues minutes. Comment tu considères les rencontres en voyage? Est-ce que ça va être pour toi... des rencontres un petit peu éphémères et intenses, mais sans forcément de lendemain? Ou est-ce que tu as tendance à garder contact avec les gens que tu rencontres?
Jusque-là, mes rencontres, elles étaient assez éphémères. En tout cas, au Japon, bah, j'ai quelques personnes sur les réseaux sociaux, mais on n'échange pas vraiment. C'était vraiment des jolis moments, des rencontres comme ça, imprévues et spontanées. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment gardé contact. Alors, sûrement que ça arrivera dans mes prochains voyages. Mais à l'heure actuelle, non.
Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu es atteinte de ce qu'on appelle le blues du voyageur ou le spleen du retour? Et si c'est le cas, comment tu te soignes?
Oui, tout le temps. C'est-à-dire que dès que je suis revenue, j'ai envie de repartir, comme beaucoup souvent. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je prévois mes prochaines vacances ou mes prochaines aventures. Et donc, je pense que ça me permet de faire un peu ce deuil, de passer à autre chose et de me projeter sur les futurs voyages que je veux faire. Comme ça, je suis moins nostalgique de celui que je viens de faire.
Bah justement, en parlant de tes futurs voyages, qu'est-ce que tu as de prévu et... De manière plus générale, quels sont les pays que tu as absolument envie de visiter, qui sont sur ta, je sais pas, ta bucket list?
Ma bucket list, elle est beaucoup trop longue. Je pense que j'ai envie d'aller vraiment partout. Mais mon prochain voyage, là, c'est Taïwan. Donc j'ai hâte d'y aller. C'est mon voyage au Japon qui a inspiré cette destination, parce qu'avant non plus, Taïwan, j'y connaissais pas trop. Mais c'est un pays à la croisée entre la Chine et le Japon. Et du coup, j'ai hâte de voir comment le Japon a influencé... cette jolie île, parce qu'elle est très méconnue et je pense que, pareil que le Japon, je vais pas m'attendre à ce que je vais découvrir là-bas.
C'était une question que j'avais également. Est-ce que le Japon, c'était ta première fois en Asie?
Non. L'Asie, c'est la deuxième... Enfin, le Japon, c'est la deuxième fois. J'avais été en voyage à Bali avant, donc c'est quand même assez différent, parce que c'est pas du tout les mêmes paysages ou la même culture. Mais non, l'Asie, j'y avais déjà été.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, donc t'as un petit espace à toi qui t'est réservé, où tu peux partager un proverbe, une recommandation, un conseil, c'est à toi.
Alors j'avoue que je sais pas trop quoi dire. Non mais si je devais donner un conseil, c'est n'hésitez pas, si vous avez envie de voyager, il faut pas se restreindre, parce que au final, alors c'est sûr que c'est un coût, mais le voyage, je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire, parce que ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre sur nous-mêmes. Et que du coup, voyager, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et que même si ça se passe mal, au final, on en apprend toujours. Après, le voyage ne doit pas forcément être une fuite. Parce que moi, je sais que quand je suis partie au Japon, c'était peut-être parce que je ne savais pas trop quoi faire et que j'étais un petit peu paumée, comme je disais. Mais ce n'est pas forcément la meilleure raison pour voyager, même si au final, je ne suis pas sûre qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais ouais, voyager, c'est quelque chose de fabuleux et je pense qu'il faut investir dans ça, si on en a la possibilité.
Merci beaucoup. Merci également à Marine pour la prise de son, à Julie et à l'ensemble de l'équipe Nouvelles Écoutes, puisque cet épisode a été enregistré dans leur studio.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur.